Bonjour. Sœur Michel vous parle aujourd'hui de Nelson Mandela. Nelson Mandela n'est pas un saint de l'Église catholique, mais c'est un homme d'une grande sagesse et d'une profonde humanité, et cela, ce sont de dons de Dieu. Avant de vous parler de Nelson Mandela, je crois qu'il faut s'introduire à l'histoire de l'Afrique du Sud. Dès sa fondation, en 1910, l'Afrique du Sud fonctionne sur des lois ségrégationnistes. Le gouvernement crée des réserves indigènes où les Noirs vivent une autonomie. Et donc, en Afrique du Sud même, il est interdit aux Noirs d'être propriétaires de terres en dehors de ces réserves, 13% du territoire national, sans ressources. C'est l'apartheid. Les Noirs, les Blancs, les Métis, les Indiens vivent séparés, avec chacun un statut spécial, les Noirs en bas de l'échelle. Les Noirs sont rattachés à leurs réserves et ne peuvent avoir de résidence officielle en zone Afrique du Sud. Ils peuvent seulement y venir travailler et donc construisent des ghettos illégaux, comme celui de Johannesburg appelé Soweto. Les mariages mixtes sont interdits, tous les lieux sont non mixtes. Les bancs dans les parcs, les plages, les entrées dans les bâtiments publics, les entrées des maisons des Blancs où ils travaillent. De son côté, l'ANC, African National Congress, et sa Ligue de jeunesse luttent contre l'apartheid. L'ANC travaille dans la non-violence suivant les théories de Gandhi, qui a vécu 21 ans en Afrique du Sud. Mais les dirigeants de l'ANC passeront à la lutte armée, au moins par les sabotages, lorsqu'ils réaliseront que la non-violence ne conduit à rien. Ce n'est qu'après les émeutes de Soweto en 1976 que des sanctions internationales contraignantes sont imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'Afrique du Sud. Qui est Nelson Mandela dans ce contexte? Il est né en 1918 dans un village du Transkei, l'une des réserves autonomes. Le père de Mandela a 4 femmes qui lui donnent 13 enfants. Nelson Mandela est né de la 3e femme. Sa mère, devenue méthodiste, le fait baptiser et lui donne une éducation méthodiste. C'est sur les terres de ce clan qu'il passe la plus grande partie de son enfance. Il appartient au clan Madiba. Mandela devient le premier membre de sa famille à fréquenter une école. Et son institutrice, selon une pratique courante à cette époque, lui donne le nom de Nelson. L'enseignement dispensé dans cette école méthodiste lui permet de recevoir une éducation à la fois africaine traditionnelle et européenne. Diplômé, il rejoint l'université de Fort Hare, la seule université acceptant les Noirs, pour y entamer des études de droit. Il y découvre le nationalisme africaneur. Certains disent qu'il n'est pas convaincu que le marxisme diffusé par le Parti communiste sud-africain soit une bonne chose, mais tout de même, il y adhère. La mise en œuvre par Gandhi en Afrique du Sud même de la résistance non violente constitue une inspiration de premier ordre pour Nelson Mandela. Son oncle, le roi, veut le marier. Il refuse ce mariage coutumier et s'enfuit. Il arrive à Johannesburg, ou plutôt à Soweto, en 1941, et Walter Sisulu, qui deviendra son ami, lui trouve un emploi dans un cabinet d'avocat. Mandela continue ses études et découvre l'ANC. En 1944, il épouse Evelyn Ntoko, avec qui il aura 4 enfants. Il ouvre avec Oliver Tambo le premier cabinet d'avocats noirs. Peu à peu, il prend des responsabilités dans l'ANC et dans la Ligue des jeunes de l'ANC. À 34 ans, il engage le mouvement dans une campagne de désobéissance civile. En 1956, il est arrêté et accusé de trahison avec 155 membres de l'ANC. Le procès durera 4 ans et demi. Tous seront finalement acquittés. Sorti en liberté, sous caution, il rentre chez lui et découvre que sa femme est partie avec les trois enfants. Il épouse Winnie en 1958. Ils auront deux filles. Le 21 mars 1960, la police tire sur des manifestants désarmés. Ils tuent 69 personnes, dont beaucoup de femmes et d'enfants, et dont on voit qu'ils ont été tués dans le dos. L'état d'urgence est déclaré, les mouvements noirs sont interdits, Mandela passe dans la clandestinité. En 62, il fait un tour du monde pour recueillir des fonds et découvre le non-soutien de l'Europe, qui a peur de l'ANC avec ses liens avec les communistes. Sur le chemin de retour, il est arrêté, dénoncé par la CIA et condamné à la prison à perpétuité. Il est donc transféré en 63 à Robben Island, une île prison en face du Cap. En 1968, sa mère meurt et il ne peut se rendre aux obsèques. En 1969, son fils aîné meurt et il ne peut pas non plus se rendre aux obsèques. Finalement, en 1982, il est transféré dans une prison sur le continent. Le président Botha lui propose la liberté, pourvu qu'il renonce à la violence. Il fait répondre par sa fille « Quelle liberté m'offre-t-on si l'organisation du peuple reste interdite ? Si ma chère épouse reste assignée à résidence, seul un homme libre peut négocier. » Mais plus tard, lorsqu'il doit être hospitalisé, le ministre de la Justice lui rend visite secrètement. Le 2 février 90, le nouveau président Frédéric de Klerk annonce la fin de l'interdiction de tous les mouvements noirs. Le 11 février 90, Mandela sort libre après 10 000 jours de prison, 27 ans. Mais la violence continue. En 91, il quitte discrètement la maison qu'il partageait avec Winnie à Soweto pour s'installer à Johannesburg. Ils se sépareront en 92. Les négociations avec le gouvernement piétinent. Tout de même, en 93, Frédéric de Klerk, le président de l'Afrique du Sud, et Nelson Mandela reçoivent le prix Nobel de la paix, qui récompense leur travail pour l'élimination pacifique du régime de l'apartheid. En 94, il devient président d'Afrique du Sud. En 98, il épouse Graça Machel. Il quitte la présidence en 99 et meurt en 2013. Mais qui est donc Nelson Mandela ? À plusieurs de ses procès, il a expliqué. La structure et l'organisation des premières sociétés africaines de ce pays me fascinaient et elles eurent une grande influence sur l'évolution de mes conceptions politiques. La terre, principale source de richesse, appartenait à la tribu tout entière et la propriété privée n'existait pas. Il n'y avait pas de riches ni de pauvres, pas d'exploitation de l'homme par l'homme. Tous les hommes étaient libres et égaux. Tel était le principe directeur du gouvernement. Oui, il a puisé sa force dans la culture de son peuple. La volonté de l'ANC de faire naître une Afrique du Sud pour tous a fait germer en lui une grande tolérance et une véritable capacité de respect pour d'autres cultures que la sienne. C'était aussi un homme de foi qui a été profondément marqué dans son éducation et dans ses pensées, par le sentiment religieux. C'était un homme de réflexion. Il a utilisé son temps de prison pour développer l'art de la méditation. Sa volonté de résoudre les conflits par la négociation, en amenant les parties opposées à coopérer, tout cela, il l'a puisé dans sa culture africaine et sa connaissance de l'Évangile. En prison, il a trouvé un temps infini pour revenir sur sa vie antérieure, en débusquer les échecs et parfois les erreurs. Il s'y est battu pour avoir le droit de porter des pantalons. Les prisonniers noirs n'avaient droit qu'à des shorts. Pour être placé avec les prisonniers politiques, pour avoir une nourriture semblable à celle des autres races, pour recevoir le journal, obtenir des livres, s'inscrire à des cours par correspondance, pouvoir cultiver un potager. Mais il était aussi fidèle au temps de prière et de rencontres de l'aumônerie, avec nombre de ministres de différentes confessions chrétiennes. La Bible est devenue sa lecture régulière. On peut dire de lui ce qu'on dit de Moïse. Dieu a fait de lui l'homme intérieur dont son peuple aurait besoin pour vaincre l'apartheid. L'un de ses gardiens écrira sa biographie, James Gregory. Il a écrit « Le regard de l'antilope »,« Goodbye Bafana » à l'écran. Il y a eu aussi les souffrances de Mandela. Ses deux premières épouses n'ont pas pu supporter ses engagements, ses absences, les souffrances que cela leur imposait. Avec Evelyne, il était souvent absent de jour et de nuit. Elle s'est tournée vers les témoins de Jéhovah et a quitté la maison avec ses enfants. Avec Winnie, ils ont vécu 2 ans ensemble. Puis ce fut la clandestinité et la prison. Il n'a vu grandir aucun de ses enfants. À cause de ses engagements, Winnie a dû vivre le bannissement à 1000 kilomètres de Soweto. Il se rendait bien compte que les deux engagements ne pouvaient être vécus ensemble. Il n'a pas fait ce sacrifice de gaieté de cœur. C'est au jugement du divorce qu'il dit « Nomzamo, c'est-à-dire Winnie, peut compter sur mon soutien indéfectible dans ces moments éprouvants pour elle. Personnellement, je ne regretterai jamais les moments que Winnie et moi-même avons essayé de partager. Je me sépare de ma femme sans récrimination. Je la serre dans mes bras avec tout l'amour et toute l'affection que j'ai toujours éprouvée pour elle, à l'intérieur et à l'extérieur de la prison, depuis la première fois que je l'ai vue. Mesdames et messieurs, j'espère que vous comprendrez ma douleur. » Le poème de William Henley a exercé une profonde influence sur lui. En tant que prisonnier, ce poème a donné le titre du film Invictus. Je vous le lis. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noirs comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu, quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi ni pleuré. Meurtri par cette existence, je suis debout, bien que blessé. En ce lieu de colère et de pleurs, se profile l'ombre de la mort, et je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. À une autre fois, au prieuré, ou bien sur Radio Grand Ciel, pour une autre vie de grand homme ou de saint.